Bonjour Bruno.
Bonjour Marin. Alors, le 52e festival d'Angoulême, c'est en ce moment. Il a été créé en 1974, c'est la 52e, elle fait polémique. Nous reviendrons sur l'événement dans les émissions à venir. Et une caractéristique importante, c'est que aujourd'hui, les auteurs et les autrices sont beaucoup plus importants qu'auparavant, et notamment les autrices qui ont maintenant une place de choix, d'honneur, mais en tout cas qui ont vraiment investi pleinement le champ de cette écriture dessinée. Il y a d'ailleurs trois autrices qui ont été en lice pour le prix, le grand prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. Donc j'essaye de mon côté d'inviter très régulièrement des autrices à égalité avec leurs homologues masculins. Et en tout cas, l'idée est vraiment de donner et de présenter l'ampleur que les femmes, les autrices ont apporté à la bande dessinée et aux écritures dessinées. Deux invités aujourd'hui, Emma Siniavski et Isabelle Merlet, qui témoigneront chacune dans leur domaine de leur écriture dessinée. Emma Siniavski, ça sera vers 14h05, 14h10, et puis pour Isabelle Merlet, ça sera autour de 14h30. Celui d'Isabelle Merlet a été enregistré lundi dernier avec les bons soins d'Antoine. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, eh oui, le 52e Festival d'Angoulême a démarré, il a déjà rendu les résultats de son grand prix, ce grand prix de la ville d'Angoulême qui récompense l'ensemble d'une œuvre. Trois autrices étaient en lice. Il y avait Alison Bechdel, Catherine Meurice et Anouk Ricard. C'est Anouk Ricard qui succédera à Posy Simons et une nouvelle fois, c'est une autrice et c'est une très bonne chose. Alors, il y avait dans ce choix de trois autrices une réaction où on avait l'impression, c'est un point de vue bien évidemment, que c'était un peu forcer le trait. Il y a, bien sûr, pendant de très nombreuses années, il n'y avait que des auteurs qui étaient en lice et puis finalement, il y a eu une réaction très forte il y a une dizaine d'années pour que les femmes qui prenaient de plus en plus de place dans les éditions de bande dessinée en France et dans le monde puissent avoir une représentation équivalente. Et donc le mouvement s'était quand même ouvert. Mais là, une petite sensation, on force un peu le trait. Alors, récompenser une œuvre, c'est aussi récompenser l'influence de cette œuvre. Et il est important de rappeler que le Grand Prix de la ville d'Angoulême est un choix des pairs, c'est-à-dire des auteurs et des autrices qui ont ainsi voté pour élire parmi ces trois noms la nouvelle présidente pour le 53e salon. C'est Anouk Ricard qui succédera donc à Posy Simons. Et c'est vraiment une très bonne chose. Je reviendrai bien évidemment sur l'œuvre d'Anouk Ricard dans de prochaines émissions avec elle, en espérant que ça sera tout à fait possible pour que vous puissiez prendre toute la dimension de cette œuvre, même si, aussi bien pour Catherine Meurice qu'Alison Bechdel, il y a là aussi deux œuvres qui ont une très grande influence. On reviendra donc sur cette 52e édition dans l'édition de la semaine prochaine, notamment avec le palmarès qui aura été décerné dans les jours qui vont venir. On a une petite virgule avant de retrouver Emma Siniavski. Au deuxième plat de couverture de Lioubimov Villemé d'Abraham Terts, signature française d'Andrei Simnaski, on peut lire l'arrivée soudaine d'Andrei Simnaski à Paris en août 1973 a attiré l'attention du monde entier sur un des plus brillants et des plus secrets des écrivains contestataires russes. Et un peu plus loin, nous pouvons lire « Des milliers de lecteurs découvriront enfin son œuvre fantastique, mystérieuse, qui est parmi les plus singulières de ce temps et qui comptera encore lorsque sera retombé l'événement. La littérature est plus importante que la vie », déclarait déjà Simnaski en 1947 à son amie Hélène Zamoyska. Le roman graphique « Babouchka et Dedouchka, survivre et s'amuser au pays des soviets » est l'œuvre d'Emma Simnaski, petite fille d'Andrei et Maria Simnaski. L'autrice écrit « Il n'y a pas plus extraordinaire histoire que celle des époux Simnaski, deux grands esprits épris l'un de l'autre de liberté et de belles lettres qui ne se sont jamais laissés dompter, mais toujours avec poésie. » Pour écrire ce roman familial, Emma Simnaski s'est immergée dans la masse imposante des archives du couple, dans leur maison de Fontenay-aux-Roses. Avec la même liberté narrative et graphique de cette première bande dessinée, l'illustratrice raconte leur résistance exemplaire avec un trait fin, chargé d'ironie, crée de nouvelles formes narratives, bouscule les codes, comme par exemple cette utilisation des bulles, y plaçant des dessins et d'autres bulles. Un refus des codes digne d'Andrei et Maria Simnaski. Nous sommes avec l'autrice pour qu'elle nous fasse partager son expérience de liberté. Bonjour Emma Simnaski.
Bonjour, bonjour.
Alors, quand on découvre... On ouvre et on lit votre livre, alors on n'est pas du tout dans les codes habituels, comme si vous étiez sorti du ghetto de la bande dessinée. Alors, expliquez-nous comment a démarré cette écriture et comment l'avez-vous mise en place ?
Alors, l'écriture a commencé, disons, vraiment à partir de la maison de Fontenay-aux-Roses, qui est la maison donc dans la banlieue parisienne où ont habité pendant plusieurs dizaines d'années mes grands-parents, après leur arrivée en France au milieu des années 70. Et donc, cette maison est vraiment remplie d'archives familiales, de lettres, d'icônes, d'affiches, de portraits de mon grand-père aussi, que moi, je n'ai jamais connu. Il est décédé quelques mois seulement avant ma naissance. Et donc, c'est vraiment ce trésor qui a été le point de départ de cette bande dessinée. Et donc, j'ai vraiment remonté ainsi la trace de mes grands-parents, leur parcours, tout ce qu'ils ont pu, toutes les aventures qu'ils ont pu vivre en URSS. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le point de départ narratif. Et puis ensuite, graphiquement, j'ai vraiment voulu faire en sorte que chaque double page ait vraiment une personnalité graphique propre, qu'on ne s'ennuie jamais visuellement, qu'on ait vraiment, en effet, un affranchissement à la fois des bulles et des cases, qu'on ait finalement presque un souffle des libertés à chaque double page, qui soit finalement un peu à l'image de mes grands-parents.
Alors, votre grand-mère, Maria, est décédée en 2023. Comment quelle relation avez-vous eue, Emma Simnaski, avec votre grand-mère? Et comment s'est mis en place cette écriture avec elle, je suppose?
Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est vraiment elle qui m'a raconté l'histoire de mon grand-père dans un premier temps. Elle, avec son humour assez débordant, elle m'a toujours présenté ça, non pas du tout comme une tragédie. Pourtant, dans les faits, mon grand-père a quand même passé presque 6 ans au goulag. Ils ont eu une vie extrêmement difficile. Il a souffert de la censure, ils ont vécu l'immigration. Donc c'est une vie vraiment pleine de rebondissements, souvent très tragiques. Et elle avait toujours le don de me raconter ça sur un ton, comment dire, insouciant, insouciant, joyeux. Et finalement, c'est un peu comme ça que j'ai appris à connaître mon grand-père grâce à elle. Et puis, je pense que c'est aussi grâce à elle que j'ai commencé à dessiner. Elle dessinait aussi beaucoup. Quand elle envoyait des lettres à mon grand-père au goulag, elle les illustrait toujours par des dessins inspirés beaucoup du folklore russe notamment. Et elle a toujours su cultiver en moi cette envie aussi de m'y mettre, de dessiner et d'exprimer ainsi mes propres histoires.
Emma Signavsky, vous l'avez évoqué, il y a cette dimension tragique dans la vie de votre grand-père, mais aussi donc dans la vie de vos grands-parents. Comment avez-vous abordé cette dimension tragique et comment est-ce... Parce qu'elle est présente dans votre récit avec ce trait très ironique.
Tout à fait. En fait, bien sûr que je voulais quand même montrer l'ampleur de ce qu'ils avaient vécu, la difficulté aussi les difficultés qu'ils ont pu aussi rencontrer au cours de leur vie de dissident. Mais fondamentalement, je ne voulais pas que mon récit soit triste. Je voulais davantage le montrer, en effet, avec ironie, avec du décalage. Par exemple, je pense à une des doubles pages de ma bande dessinée, qui est extrêmement colorée, où ma grand-mère arrive, donc ils viennent d'arriver en France. Et elle rentre pour la première fois dans un supermarché occidental et elle fond en larmes. Et parce qu'en fait, elle n'a jamais vu autant d'abondance en URSS. Les pénuries étaient absolument catastrophiques. Il n'y avait rien dans les magasins. Et donc, face à tant d'abondance, elle fond en larmes. Et fondamentalement, ça représente bien évidemment toute la tragédie de l'URSS, où tout le monde manquait de tout. Mais j'ai décidé de faire de ça une double page finalement extrêmement colorée, qui aussi symbolise finalement l'ampleur en fait de ce choc pour ma grand-mère.
Alors, à l'opposé de cette double page, on trouve par exemple celle de l'interrogatoire d'André Sinaski par le NKVD, où on a six bandes d'images de petites cases ces paroles donc des services secrets russes. Comment regarde, avez-vous travaillé globalement avec votre récit pour qu'on ait vraiment cette ampleur et cette amplitude, aussi bien dans la mise en scène que dans les formes graphiques et l'utilisation de vos codes?
En fait, j'ai cherché vraiment à ce qu'il y ait une variété très très marquée. Par exemple, en effet, j'ai bien sûr un chapitre qui se passe au Goulag, où j'ai cherché en effet à travailler beaucoup plus avec des tonalités plus grises, où un des personnages presque principaux de ce chapitre est le vatnik. Le vatnik, c'est une veste matelassée que portaient les détenus au Goulag. Voilà, donc ça c'est disons, une identité graphique. Et de l'autre côté, j'ai en effet des chapitres qui sont beaucoup plus foisonnants de détails, comme par exemple en effet le chapitre qui concerne une des rencontres déterminantes que mon grand-père a pu faire, celle avec Hélène Pelletier, une jeune Française qui par la suite a fait passer ses écrits clandestinement en Occident. Et donc, en fait, j'ai vraiment travaillé, disons, par chapitre, pour que chaque chapitre ait vraiment une identité visuelle propre, et aussi, mais pour que l'intégralité soit finalement homogénéisée par ce ton un peu, en effet, ironique, et en même temps qui souligne finalement l'énorme absurdité du régime soviétique, en fait. C'était aussi ça mon but, c'est qu'on voit à quel point le régime soviétique pouvait en effet faire preuve d'absurdité la plus totale, tout en étouffant toute forme de liberté et de créativité.
Alors, Emma Simiaski, vous êtes illustratrice et vous avez choisi la bande dessinée, c'est votre première bande dessinée. Qu'est-ce qu'elle vous a permis?
Eh bien, tout simplement, je dirais de m'approprier cette histoire, de la dompter en quelque sorte, parce que Voilà, j'ai grandi avec vraiment cette image du grand-père un peu héroïque. Donc encore une fois, moi je ne l'ai jamais connu, mais mon père, ma grand-mère m'en parlaient beaucoup. J'ai su très jeune que j'avais un grand-père qui avait fait des années au goulag, qui était dissident, etc., etc. Donc c'était quelque chose, je dirais presque d'assez pesant en fait. J'avais presque un complexe d'infériorité par rapport à ce grand-père, voilà, qui a vécu des choses assez folles. Je me posais tout le temps la question, mais qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Comment j'aurais pu vivre dans des telles conditions? Comment moi j'aurais réagi? Et en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais très très peur aussi de mon grand-père parce que physiquement, il est assez étrange. Il a des yeux qui louchent très très fortement, une barbe très hirsute, coupée de travers. Donc voilà, son physique n'est pas extrêmement rassurant. Et donc finalement, la bande dessinée, le fait de dessiner aussi mon grand-père, d'en faire un personnage, c'était une façon pour moi de dompter cette histoire familiale, d'en faire voilà, ma propre interprétation, voilà, de me l'approprier.
Alors, vous avez parlé du strabisme de votre grand-père. Alors, vous le dessinez, et notamment, vous avez choisi que l'ensemble des yeux soit ces points ronds, alors avec un blanc ou pas. Et donc, le strabisme, ça doit pas être très simple à représenter.
Non, tout à fait. Et d'autant plus que, alors, c'est à la fois pas simple et en même temps, ça rend le personnage tout de suite atypique, en fait. C'est pour ça que j'en joue énormément, parce que c'est vrai que, du coup, mon personnage d'Andrei, mon grand-père, on sent qu'il est maladroit. On sent qu'il est, voilà, qu'il est à la fois sympathique et maladroit. Et donc, pour moi, c'était aussi une façon, finalement, de transformer quelque chose qui me faisait peur quand j'étais petite en quelque chose de sympathique et de bienveillant.
Alors, quelle dessinatrice êtes-vous, Emma Signaski? Comment ça se passe sur la table à dessin? Parce qu'il y a une énergie forte, mais il y a aussi cette maîtrise du trait, qui est un trait très fin et qui est toujours chargé d'ironie. Comment ça se passe donc sur la table à dessin?
Alors, déjà, tout simplement, je dessine sur tablette graphique, ce qui me permet en effet d'avoir une maîtrise de traits assez forte. Et puis surtout, je conceptualise, non pas page par page mon dessin, mais double page par double page. Donc, j'ai vraiment travaillé, comme ça, double page par double page, pour créer en fait une unité graphique, sur chaque double qui soit un peu particulière. Et en fait, j'ai d'abord commencé vraiment à faire un chemin de fer assez complet, parce que l'histoire que je raconte est déjà assez complexe. Et puis en plus, j'ai choisi de la raconter non pas nécessairement d'une façon chronologique, mais vraiment en partant de la maison de Fontenay, qui est vraiment le point de départ, et puis en tirant les différents fils de l'histoire. Et donc, une fois que j'avais mon chemin de fer, j'ai voulu en effet identifier les chapitres, et leur trouver une patte graphique, à chacun. Et puis ensuite, j'ai décortiqué ça double page par double page pour que vraiment il y ait une structure visuelle assez forte.
Alors, vous avez choisi, et vous avez, Emma Signaski, un rapport au texte intense dans votre récit. Il peut être abondant. Comment se passe cette écriture? Est-ce que, à un moment, vous le lisez à haute voix pour que ça colle parfaitement avec le dessin? Est-ce que vous avez un suivi du texte sur l'ensemble, sur la double page, bien sûr, mais sur l'ensemble du livre? Comment vous avez procédé?
Alors, j'ai vraiment écrit le texte en parallèle de chacune des doubles pages. Donc, bien sûr, chacune des doubles pages avait d'abord sa propre identité graphique. Et puis ensuite, finalement, le texte est presque venu d'une certaine façon après. Et ensuite, en fait, moi, l'un des grands challenges du point de vue de l'écriture, c'était comment je m'insérais moi, en fait, quelle place j'allais prendre moi, en tant que personnage, parce que je voulais bien sûr assumer le fait que c'est moi, petite fille d'Andrei Signaski, qui racontait l'histoire, mais en même temps, je ne voulais pas que ça soit que ça soit niais, je voulais que ça soit vraiment voilà, à la hauteur finalement de l'histoire que je racontais. Et donc pour moi, voilà, ça m'a pris beaucoup de temps finalement, purement du point de vue de l'écriture, comment m'impliquer moi dans le récit. Et donc ça, en effet, ça m'a coûté beaucoup de relectures, beaucoup de recherches stylistiques pour trouver voilà, un ton qui soit à la fois simple mais juste et qui me permettrait de m'intégrer dans l'histoire.
Alors, Emma Signavsky, Pussy Simmons, est la présidente du 52e salon d'Angoulême. Quelle importance ça a pour vous qu'il y ait une autrice et qu'elle soit reconnue ainsi?
Eh bien, c'est vrai que pour moi, c'est d'une certaine façon extrêmement rassurant de voir que finalement, voilà, moi, je suis autrice de bande dessinée et que je suis exactement au même titre que n'importe quel auteur de bande dessinée. En fait, pour moi, fondamentalement, c'est une question qui ne se pose pas et je me considère comme très chanceuse, en fait, d'arriver à une époque, avec ses premières bandes dessinées, d'arriver à une époque où cette question, justement, n'est plus une question, où, voilà, ce n'est plus un handicap d'être une autrice, et non pas un auteur. Voilà, donc, pour être tout à fait honnête, voilà, je me sens libérée de cette question-là et très chanceuse de l'être. Voilà, et très chanceuse de pouvoir sortir cette première bande dessinée dans ce contexte.
Emma Signavsky, quel horizon ouvre ce premier roman graphique, Babouchka et Dédouchka, survivre et s'amuser au pays des Soviets, j'insiste sur le titre. Quel est le prochain projet? Comment maintenant vous appréhendez l'écriture dessinée?
Eh bien, je suis justement en train de travailler sur la suite parce que je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai vraiment adoré faire cette bande dessinée. Voilà, c'est un médium qui pour moi est devenu voilà, extrêmement naturel et plaisant et j'ai envie de raconter tout un tas d'histoires grâce à ça. Il y a des prochains projets. Alors, je ne vous en dirai pas plus parce que je commence tout juste à travailler dessus et je suis assez cachotière, mais ça sera très ambitieux et à la hauteur de Babouchka et de Dédouchka.
Ben merci beaucoup, Emma Signavsky. Alors, je vais rappeler les caractéristiques de votre premier roman graphique, Babouchka et Dédouchka, survivre et s'amuser au pays des Soviets. C'est publié par les éditions Sarbacane. Les 128 pages de votre roman graphique sont au prix de 22 € et le livre a été imprimé en France. Eh bien, nous serons au rendez-vous pour vos prochains livres. Très bonne continuation, Emma Signavsky.
Merci, merci beaucoup. Merci.
Merci. Et j'invite tous les auditeurs à lire aussi Andrei Signavsky. J'ai cité Lioubimov, Ville aimée. C'est une très bonne entrée dans son œuvre. Musique.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто,
и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу, досадно мне, когда невинных бьют. И я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.
Isabelle Merlet, pour la première fois, voit son travail de coloriste qualifié d'œuvre d'autrice. Elle est donc co-autrice du livre de Sébastien Negdig, « Enfant de salaud », adapté du livre éponyme de Sorge Chalandon. L'autrice a collaboré avec les plus grands auteurs aux dessins différents. Jean-Denis Pendanx, Pascal Rabaté, Jean-Marc Rochette, Bloch ou Nicolas de Crécy. Isabelle Merlet se laisse guider par le dessin, se centre sur les lumières et les ombres. Son langage de la couleur participe à l'embellissement des choses. Elle dit, en parlant de son métier, « On ne fait pas du coloriage, on fait de la narration ». « Enfant de salaud » est un récit de Sorge Chalandon où, après des années d'écriture, il se confronte à son père collabo au passé sulfureux, sur lequel il n'a aucun repentir. Une écriture tragique où la folie affleure et s'impose. Isabelle Merlet compose avec les espaces du dessin de Sébastien Negdig. Elle joue une partition à la manière d'une musicienne pour que ses lumières, ses harmonies, ses variations résonnent avec le trait de Gnedig. Nous sommes avec Isabelle Merlet pour qu'elle nous invite dans les couleurs de son monde. Bonjour Isabelle Merlet.
Bonjour Bruno.
Alors, quelle a été votre réaction quand enfin votre travail d'autrice est qualifié, votre travail de coloriste est qualifié de travail d'autrice?
Ma réaction, non, il n'y a pas eu de réaction en fait. C'est pas la première fois, vous disiez que c'était la première. En réalité, c'est arrivé plusieurs fois. Mais là, peut-être que... Oui, tout à fait. Non, mais là, peut-être que Sébastien a plus mis l'accent là-dessus que les autres auteurs, bien que, bon, je pense que lorsque mon nom apparaît en couverture, les auteurs... le disent et ils sont attachés. En réalité, c'est eux qui le demandent. Moi, mon job, c'est d'accompagner un récit, effectivement, d'interpréter à la manière d'un musicien, d'un comédien, de porter la voix, d'éclairer, d'accompagner, vraiment de prendre la main au lecteur et de le... Je ne sais pas comment dire ça précisément, mais qu'il se sente bien dans le récit. D'abord qu'il repère, qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation, qu'il voit immédiatement. Ça facilite la narration, la couleur. Hein. Dans un dessin où il y a, dans une foule par exemple, c'est grâce à la couleur. C'est un exemple idiot, mais bon, c'est celui qui me vient à l'esprit. C'est grâce à la couleur que le personnage principal qu'on suit, dont on suit l'histoire, va apparaître. Un petit point de couleur, clac, au milieu de 300 personnes. Hop, donc le lecteur va pouvoir suivre l'intrigue et le dessin avec facilité. Voilà. C'est ce qui me tient à cœur, évidemment, comme tous les coloristes. Et moi, ce que je travaille depuis toutes ces années, ça fait maintenant 30 ans, c'est vraiment la lumière. C'est sculpter la lumière. C'est ça qui m'intéresse. Plus que les questions purement chromatiques, c'est qu'on sente, quand on est dans une image, qu'on sente la moiteur, qu'on sente le brouillard, qu'on sente l'humidité, qu'on sente la chaleur, qu'on y soit. En fait, qu'on soit dans le film, si je puis dire. C'est pas un film, mais qu'on soit totalement immergé dans quelque chose qui est un trait noir sur une feuille blanche. Hein. Donc, a priori...
Alors justement, Isabelle Merlet, quels sont les préalables à la première mise en couleur des premières pages d'un livre, par exemple pour Enfants de salauds? Quelle est la discussion avec Sébastien Gnédic pour que... cet échange ou alors il vous laisse...
En l'occurrence, il n'y en a pas, non, il me laisse justement complètement libre parce qu'il sait que je vais... Alors si ça ne lui plaisait pas, il n'y a évidemment aucun souci sur le fait que je reviendrai sur ma copie et que j'essaierai de faire en sorte que ça lui... qui se sentent à l'aise avec ce que j'ai fait, parce que la couleur transforme le dessin complètement. Mais en l'occurrence, jusqu'à présent, les gens m'ont appelé, les auteurs et les autrices m'ont appelé parce qu'ils savaient que j'allais leur apporter quelque chose qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire. Sinon, quel est l'intérêt? S'ils savent ce qu'ils veulent et s'ils savent le faire, ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire?
Très bien.
Donc, moi, ce que j'amène, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi on a cette voix-là, pourquoi on a ces goûts-là, pourquoi on a cette sensibilité-là. C'est là, c'est naturel. Et puis, ça se développe, évidemment, avec la pratique, comme toutes les pratiques. Comme, voilà, un dessinateur ne va pas arriver à 14 ans avec un dessin qu'il aura à 60 ou à 80. Donc, c'est pareil. La couleur, c'est un goût, une sensibilité particulière pour ce langage. Pour moi, c'est vraiment un langage. Et c'est du travail, énormément de travail. Donc, lorsqu'on reçoit une page, en tout cas pour moi, ce qui se passe, c'est que je mets de la couleur dessus. C'est totalement... il n'y a aucune espèce de réflexion. Il n'y a aucune espèce de construction mentale, de pensée, d'argumentation. Tout ça n'existe pas. Je n'ai pas, moi, à défendre mon travail auprès de qui que ce soit, auprès de la critique. Donc, c'est instinctif. Je me jette sur la page. Je mets de la couleur sur cette page et je renvoie immédiatement. Donc, en général, quand on m'envoie une page pour un essai, je fais très, très vite l'essai. Et à partir de la réaction de l'auteur, et à partir de ce que moi je vois une fois que je l'ai envoyé, c'est-à-dire qu'il y a un petit temps de recul entre faire la chose et puis la voir ensuite, la revoir, entre donc ma propre perception après et la perception de l'auteur, je sens s'il y a besoin ou pas d'un ajustement. Bon, alors ça, ce sont les premières pages, mais un récit comme celui-ci, qui fait plus de 100 pages, ben, on travaille sur, on accompagne, on commence par la page 1, on va jusqu'à la page 100, et puis une fois qu'on a fini ça, je repasse toute l'œuvre, en fait, et là, je fais des ajustements. Et parfois, je recommence absolument tout. C'est arrivé sur ce livre. Arrivé à la page, je ne sais plus, je crois que c'était la page 126, enfin je ne sais plus, j'ai trouvé quelque chose, un double éclairage sur les personnages qui m'amenait quelque chose, je ne peux pas dire quoi, mais c'était important. Et donc j'ai refait tout le livre, j'ai repassé toutes les pages avec cette nouvelle approche. Donc, d'un côté, les personnages sont éclairés. Alors c'est totalement, évidemment, c'est totalement anti-naturel. Hein. Si vous sortez dehors, d'autant plus là, il pleut, il n'y a pas de lumière, vous n'êtes pas d'un côté éclairé par une lumière du soleil ou un lampadaire jaune, et de l'autre, vous avez une lumière bleue qui arrive. On voit bien que c'est complètement du cinéma, ça. Mais ça marchait pour ce dessin, pour envelopper le dessin de Sébastien, qui est un trait assez, assez simple, pour amener de la présence, de la force, ce truc-là est apparu. Et donc après, je l'ai tout simplement appliqué à l'ensemble des pages et j'ai ajusté. C'est de la dentelle, hein, c'est vraiment de la dentelle. Et je dirais c'est du sur-mesure. C'est pour chaque dessin, on trouve quelque chose qui marche, pour celui-ci particulièrement. Voilà.
Mais par exemple, la scène inaugurale d'Enfants de salauds et, oui. Et l'arrivée de Sœur Chalandon sur à la maison d'Izieux où il y a oui. eu donc oui. la rafle des enfants.
Oui, des enfants. Oui,
donc il y a des couleurs glaçantes.
Alors là, c'est une sorte de camailleux, oui. Et au départ, je pensais que j'allais faire tout l'album comme ça, c'est-à-dire assez peu de couleurs. Hein, on est dans il y a une espèce de fond un peu de jaune très pâle et puis un vert bleu et effectivement c'est très glaçant et au début moi je n'ai que cette scène en dessin, je n'ai que ces 14 pages qui m'arrivent et donc je pense je vais aller dans cette ambiance pour tout le livre parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver donc j'imagine que ça sera ça et puis en fait lorsque les pages arrivent et lorsque je vois j'ai lu le synopsis, le scénario découpé, le découpage. Donc je connais l'histoire, je sais qu'il y a différentes époques, que tout ça se mêle, mais le dessin n'étant pas encore en place, j'ai du mal, moi, à projeter des couleurs là-dessus. Pour l'instant, c'est uniquement la structure narrative que je perçois, mais pas encore les images et donc les espaces que j'aurai pour mettre de la couleur. Donc une fois que j'ai les pages, c'est à ce moment-là que je me rends compte que, ah non, cette première partie de la visite de Sorge dans le lieu, juste avant que ne commence le procès Barbie, ça va être vraiment un prélude, si je puis dire, et ça sera dans une gamme colorée particulière. Et ensuite, on va changer cette gamme et voilà, jouer entre le présent de 1986 ou 7, je ne me souviens plus, du procès, donc, et puis les différents flashbacks de l'enfance de Sorge et du passé de son père, puisque lorsqu'il est interrogé par la police, on voit des scènes de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a, voilà, de ce qu'il a porté comme costume. comme uniforme.
Avant de préciser quelques points sur la mise en couleur, quel est votre rapport au noir, Isabelle Merlet? Comment l'abordez-vous? Il y a un mouvement des noirs sur l'ensemble du livre, par exemple cette scène inaugurale qui n'en a quasiment pas, juste le trait, et puis on va avoir des passages où la chevelure du père plus jeune va être très sombre. Comment utilisez-vous ce noir?
C'est ma matière première, donc c'est exactement comme un comédien va bien être obligé de faire avec la langue qu'on lui met dans la bouche, si je puis dire. Bah, moi, le noir, je l'utilise comme je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Ça fait partie de la base du travail. Soit il y a beaucoup de noir dans le dessin, soit il y en a peu, soit le dessin est le trait est comme un fil de fer, et il n'y a pas de noir, auquel cas, là c'est coton quand même, il faut bien le dire, parce que la couleur évidemment vient alourdir ce trait, vient le densifier et peut venir rompre. La seule chose qu'il ne faudrait pas, c'est que la couleur vienne enlever ce qui était là au noir et blanc, c'est-à-dire une élégance, un équilibre, une lisibilité. Au contraire, elle doit garder l'équilibre du noir et blanc, magnifier ce dessin. C'est quand même son rôle, hein, de le rendre visiblement beau. Il l'est, évidemment, mais les gens ne vont pas le voir en noir et blanc, ils vont le voir en couleur. Donc notre rôle, c'est de ne pas cacher la beauté du dessin du départ, de ne pas cacher sa beauté et éventuellement de ne pas l'assombrir, enfin le lui donner un aspect qu'il n'aurait pas à la base. Voilà. Donc il faut toujours garder la note juste. Un dessin, il a une résonance, il a quelque chose de à lui, voilà, de tout à fait unique. et personnel. Et il ne s'agirait pas d'uniformiser tous les dessins avec une seule et même manière de mettre de la couleur. On met une couche là, comme du maquillage, voyez, et on maquillerait tout le monde pareil. Non, surtout pas. Voilà. Donc le noir, je le prends avec précaution et j'y fais très attention. Et quand il y en a beaucoup de noir, comme par exemple dans un livre comme Le Loup de Rochette, Jean-Marc met énormément de noir, eh bien là, je dis, je suis désolée, je ne peux pas travailler avec tout ce noir, donc ce noir, je vais le transformer, moi, et je vais le transformer dans un bleu outre-mer profond. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout de noir. On enlève le noir est remplacé par un bleu, et à ce moment-là, la couleur peut s'insérer dans ce bleu. Donc je me débrouille comme je peux avec le noir.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Isabelle Merlet à l'occasion de la mise en couleur du livre de Sébastien Nédig, Enfant de salaud, d'après Sorge Chalandon. Une question sur la vision d'ensemble et puis sur aussi comment ça se passe avec la page. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait de recommencer une page. Alors, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que vous renvoie la page et comment elle vous guide ? À quel moment vous considérez que là, ça y est, c'est acquis ?
Ça, c'est
la cuisine interne.
C'est mystérieux. Comment un peintre sait que son tableau est fini ?
Ils le disent tous que c'est jamais fini, mais bon.
Il y a un moment, on s'arrête, c'est tout. Effectivement, si je reprenais les pages aujourd'hui, je pense que je pourrais encore les affiner, mais je vais au maximum de ce que je peux faire dans le temps qui m'est imparti. Et en général, c'est beaucoup, c'est-à-dire j'y vais à fond et je fais jusqu'au dernier instant, jusqu'avant de livrer à l'imprimeur. Mais il y a un moment quand même naturellement où ça s'arrête. Il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus la force. Et donc, on accepte que ce soit, on ne, à cet instant T, ce sera ça. Voilà, c'est tout. Comme une représentation théâtrale, c'est terminé, on fera mieux demain. Voilà.
Alors, il y avait cette approche globale. Est-ce que, par exemple, Lorenzo Mattotti évoquait pour Stigmate, il accrochait les pages au fur et à mesure sur un fil pour voir vraiment le mouvement des noirs, le mouvement des hachures. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une vision globale comme ça?
Oui, tout à fait. Oui. Je régulièrement, je fais... Alors maintenant, je suis sur numérique, donc je n'accroche pas avec des pinces à linge les pages, mais je fais un livre, tout simplement, ce qu'on appelle un PDF, et je fais circuler... Je lis les pages, et donc évidemment je travaille avec les doubles pages, avec ce que vous allez voir vous. Je ne travaille pas juste page à page, je vois qu'est-ce qu'il y aura en face de la page de gauche, il y a une page de droite. Donc je travaille les doubles pages et puis je travaille, comme je le disais, le rythme par séquence. C'est-à-dire qu'en général, on a des séquences qui glissent sur 2, 3, 4 pages, 5 pages. Quand on a une séquence très longue, elle fait 10 pages. 10 pages dans une même ambiance de nuit, d'intérieur, de je ne sais quoi. Bon, ben, il faut le gérer, quoi. C'est très très long, 10 pages avec les mêmes couleurs, quoi. Vous voyez, ça se travaille. Quand on a une séquence comme ça, un peu longue, il faut un contrepoint, il faut qu'à un endroit on retrouve. Je sais pas. Je suis nulle en musique. Si j'avais les mots de la musique, peut-être je pourrais vous parler.
Par exemple, dans Enfant de salaud, il y a plusieurs scènes qui se passent dans le tribunal de Lyon où est jugé Klaus Barbie. Alors là aussi, on a une très grande double page avec l'ambiance du tribunal. Et puis il y a des récurrences régulières sur les scènes du tribunal avec des focus sur le père présent dans le public, sur l'avocat, le procureur.
Oui. Comment les... Alors ça, je les ai traités. Ben, ça, allez-y. Je les ai traités, par exemple, ces scènes-là, toujours un peu comme si nous étions à la même heure, pas le même jour, mais enfin, il y a toujours à peu près la même lumière, me semble-t-il, hein, sur ces pages. Parce que c'est un peu le... il y a une récurrence, comme vous dites. Donc on y revient à ce procès. C'est le cœur de... Non pas le cœur de l'histoire, parce que vraiment le cœur de l'histoire, je crois que c'est la relation au père. C'est cet enfant qui s'est entendu dire qu'il était un enfant de salaud. Mais Sorge a eu l'intelligence de mettre en parallèle ces deux histoires. Donc la grande histoire, le procès Barbie, et puis son histoire à lui. Et donc je reste assez en plus c'est un intérieur, c'est un procès, donc je reste assez fixe, assez rigide, entre guillemets, sur la partie de la justice, du procès Barbie. C'est toujours à peu près la même chose au niveau de l'ambiance. Et puis par contre, il y a des variations sur il y a l'évolution de la relation du fils au père et de la confrontation du fils au père, de ce fils qui veut faire dire à son père ce que son père ne veut pas lui dire, c'est-à-dire ce qu'il a fait pendant la guerre. Et Sorge imagine qu'il a les documents officiels prouvant qu'il a bien fait ce qu'il a fait, alors que, évidemment, ça c'est de la fiction, hein, il n'avait rien, il ne savait pas, il l'a su après la mort de son père, mais il met en scène, qu'est-ce qu'il se serait passé si j'avais pu le confronter? Et si j'avais pu le confronter au moment où Barbie lui-même était confronté à ses actes, au moment où il était jugé pour les horreurs qu'il avait faites. Donc j'ai beaucoup varié, j'ai beaucoup joué avec les scènes père-fils. C'est vraiment des face-à-face. Bon, c'est un peu répétitif, hein, au niveau du dessin. On est obligé de montrer, le père en face du fils. C'est toujours un peu la même chose. Mais là, j'ai beaucoup, beaucoup essayé de varier les lumières et pour rester avec une structure fixe sur le procès. Donc la construction, elle s'est faite complètement. C'était pas réfléchi. Mais ça, c'était une évidence, quoi. C'est arrivé comme ça.
Isabelle Merlet, est-ce que la couleur, est-ce que ce serait une chose que vous auriez envie de faire, qu'elle soit un préalable, par exemple, à partir de la lecture d'un récit qui va être mis en bande dessinée? Vous imaginiez déjà une palette, des ambiances, et que...
Ah non, c'est pas possible.
C'est pas possible, parce que...
Non.
Non, mais par exemple, un auteur comme Ruben Pellerero fait un cahier d'une mise en couleur complète avec des recherches, des tâches. Il met ses ambiances colorées par page sur des petites représentations, et puis après...
Mais je le comprends tout à fait. Mais Ruben, c'est un même mouvement, c'est-à-dire qu'il raconte, il dessine et il met en couleur. Tout ça est une seule et même chose. voilà, moi, je vais être obligée de faire à partir d'un dessin. Donc si j'imaginais, je lisais un roman, je sais qu'il va être adapté, je sais que je devrais faire les couleurs de l'adaptation. Bon, imaginons. Sauf que je vais pouvoir m'amuser, ah ben oui, ça c'est sûr, je vais pouvoir délirer autant que je veux, mais après, je vais être face à des pages qui seront ce qu'elles sont, et peut-être que ça ne m'aidera absolument pas, d'ailleurs je pense, d'avoir prévu à l'avance des choses. Non, les choses arrivent dans la vie et puis on les prend. Vous voyez, on se dit pas « Ah, alors le jour où je vais rencontrer machin, je lui dirai ça et ce sera génial. » Non, pas du tout. Un jour, on rencontre machin et c'est génial, ou pas. Mais voilà, il faut plus de spontanéité. Lorsqu'on est coloriste, attention, je dis pas lorsqu'on est illustrateur, enfin lorsqu'on est dessinateur et coloriste de ces planches, bien évidemment qu'on peut déjà, voilà, parce qu'on sait que le dessin va suivre, on sait ce qu'on va dessiner, on est maître de tous les outils. Là, c'est un peu différent. Moi, le dessin, il m'est entre guillemets imposé. Je ne choisis pas de dire, ah ben non, là, alors là, en l'occurrence, sur cet album, j'ai pu dire à certains moments à Sébastien, bah, là, ton cadrage, on pourrait faire comme ça. Bon, j'ai fait des petits bougers, des petites réductions, des petits machins. Bon, en général, non. Là, c'est parce qu'on a une grande confiance l'un avec l'autre, l'un envers l'autre, que Sébastien est avant tout, avant d'être dessinateur, c'est un éditeur, un grand éditeur. Donc, c'est pas non plus son occupation principale que de dessiner. Donc, c'est pas hyper simple en plus de son travail de faire donc de temps en temps, moi je le conseillais, on va dire, je vais pas dire que je l'aidais, mais voilà, je lui disais bah là peut-être ceci cela, mais normalement on reçoit la page, oh, c'est terminé, on va pas commencer à chipoter, à dire non mais là cette case ou cette page ne me convient pas, ça ne va pas avec ce que j'ai imaginé. Non, là pour le coup, on fait avec ce qu'on a et donc il faut beaucoup de souplesse et d'acceptation de ce qui est. Voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Super. On fait.
Une dernière question, Isabelle Merlet. Pussy Simons est la présidente du Salon d'Angoulême. Est-ce que ça a une importance pour vous qu'une femme autrice comme ça puisse soit présidente?
Bah, une importance pour moi personnellement, non, aucune. Une importance pour la bande dessinée, oui, je crois que ça en a beaucoup. Tout simplement parce que c'est un médium qui a longtemps été réservé aux hommes. Et bon, c'était comme ça, comme plein de choses dans la vie. Et que ça s'est ouvert progressivement à partir de... Ben, lorsque Bretéché est arrivée, elle a été un peu toute seule. Sestac était là aussi, mais les femmes étaient peu nombreuses. Et donc, qu'on reconnaisse l'œuvre d'une femme, c'est juste quelque chose de normal. Voilà. Donc, je trouve ça très, très bien et tout à fait normal. Ni ouais. Plus ni moins. Et voilà.
Parfait. Ben, merci beaucoup,
je vous en
Isabelle
prie.
Merlet. Alors, je vais rappeler les caractéristiques du livre sur lequel vous avez fait la mise en couleur. Donc, c'est Enfant de salaud de Sébastien Gnédig, adapté du roman de Sorge Chalandon. C'est publié par les éditions Futuropolis. Et les 178 pages de ce livre sont au prix de 24 euros et il a été imprimé en France. Très bonne continuation. À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
I've heard there was the secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift,
the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. From your lips she drew the hallelujah. 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 God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very
nous écourtons Leonard Cohen. Merci. Alors, cette émission a été préparée. Donc, Marin est à la technique aujourd'hui. Il y a eu aussi Fabien et Antoine qui ont participé. Et Antoine, notamment, pour l'entretien avec Isabelle Merlet. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis on parlera des palmarès de ce 752e édition, mais aussi ce qui fait polémique. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.